suis votre thérapeute.
Chose vue.
La blouse blanche, bon, ça fait médical.
Grand bien vous fasse.
Et avec vous, Sophie, la culpabilité a quelque chose d'un peu régressif, parfois.
C'est pas moi, s'écrient les enfants et signifient les joueurs de foot, bras levés devant l'adversaire qui chouine par terre. Un « c'est pas moi » qui, pour le coup, signale presque toujours une faute, un vase cassé ou un croche-pied très volontaire. Une faute qui, elle, ne génère pas cette culpabilité poisseuse et irrationnelle qui colle à la peau du coupable ordinaire. Cette culpabilité-là, poisseuse et irrationnelle, s'invite partout où l'on se raconte et s'examine. Elle raffole des cabinets des psys, elle se vautre sur les divans, où l'on peut s'accuser, se flageller sans être interrompu par des « mais non, tu exagères, ce n'est pas de ta faute, tu as fait au mieux ». On se repose alors de nos tentatives, hargneuses parfois et souvent désespérées, de faire porter le chapeau à l'autre, au temps qu'il fait, à l'époque, au karma ou à notre manque de chance. La culpabilité, quand elle nous assaille régulièrement, devient même notre marque. À fonctionner sans elle, nous aurions presque le sentiment d'être à poil. Elle nous tient chaud, elle nous définit et nous contient. Qui serions-nous sans elle? Des êtres sans foi ni loi? Et surtout, contrairement au fameux « responsable mais pas coupable », elle nous rassure quant à notre responsabilité sur à peu près tout. Si mon enfant a un rhume, c'est que je ne l'ai pas assez couvert, même s'il a 16 ans. S'il a un chagrin d'amour, c'est que je l'ai sevré trop tard. S'il pleut pendant notre séjour en Grèce, c'est que je porte la poisse, même si on est une vingtaine. Si mes amis quittent la soirée à 3 heures du matin, c'est que je n'ai pas su les distraire. Et si mon amoureux est lointain, c'est que je l'ai énervé et qu'il ne m'aime plus. Ce qui devait arriver, un coupable ne se considère pas comme foncièrement aimable. En fait, le coupable n'imagine pas que les choses et les gens puissent évoluer en dehors de lui, qu'il ne soit pas concerné, qu'il ne maîtrise pas tout, voire presque rien. Il ne conçoit pas que l'amant ait des préoccupations sans rapport avec lui, que l'enfant ait une sensibilité que son influence n'aura pas seule façonnée. Le terrifie plus que tout, celui que la culpabilité ne quitte pas, l'idée qu'il n'y soit pour rien. Il se sentira même coupable de, oh surprise, ne pas s'être senti coupable. Parce qu'il s'est oublié, parce qu'à cet instant, il n'a pas cru tenir les rênes, parce qu'il s'est laissé vivre. Car le coupable échappe sans cesse au présent. Il s'accuse de ce qu'il aurait dû faire, de ce qu'il devrait être en train de faire, ne profitant donc pas de ce qu'il fait effectivement, qui peut être rien. Car c'est un art que de ne rien faire, ce n'est pas facile. Se poser, rêvasser, laisser le temps filer sans se reprocher, tout ce à quoi on aurait dû s'occuper, voilà le véritable défi. Le coupable s'y casse le nez. Et puis il y a cette culpabilité qui, elle, ne colle pas et s'évapore rapidement, qui procure même un certain délice. La culpabilité de, en toute conscience, transgresser les « il faut » et « je devrais » pour voler un plaisir que les circonstances ou l'emploi du temps a priori ne m'autorisaient pas. J'appelle ça mon école buissonnière, quand entre deux séances de psy, au lieu d'en profiter pour faire mes devoirs, je file au cinéma pour un autre genre de séance, puis que le soir je raconte ma journée sans forcément mentionner cette échappée, encore meilleure de n'être pas avouée. Cette culpabilité, réjouie et sans remords, de n'être pas ce bon élève qu'on s'était forcé d'être toute son enfance, sans y parvenir souvent, ne serait-ce pas elle, au fond, qui signalerait qu'on est devenu grand ?
Merci beaucoup Sophie Cadalen.